Port-au-Prince, l'heure du rendez-vous d'Haïti et des Amériques. C'est avec vous, Anne Verdaguer, bonjour.
Bonjour Sébastien et bonjour à tous. On va revenir aujourd'hui sur l'assassinat vendredi en Haïti du bâtonnier du barreau de Port-au-Prince. Haïti qui est sous le choc et qui observe 3 jours de deuil national. On entendra la réaction des avocats qui vont manifester lors d'une marche demain. Réaction recueillie par notre correspondante Amélie Baron. Aux États-Unis, la venue de Donald Trump à Kenosha dans le Wisconsin, où le président américain n'a pas rencontré la famille du jeune homme noir qui a reçu 7 balles dans le dos de la part de la police. Il a préféré rendre hommage aux policiers suite aux émeutes qui ont suivi. Ces nouveaux soupçons d'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine, on en parlera avec le démantèlement par Facebook et Twitter d'une campagne de désinformation venant de Russie. On va donc revenir tout d'abord sur la colère en Haïti après le meurtre du bâtonnier de Port-au-Prince à son domicile vendredi soir. Hier, plusieurs centaines d'étudiants de la capitale haïtienne ont manifesté pour dénoncer cet assassinat et réclamer justice. Les avocats du pays sont très affectés par cet assassinat perpétré contre le premier d'entre eux. Ils prévoient eux aussi une marche en mémoire de Maître Dorval ce jeudi. Amélie Baron à Port-au-Prince.
L'assassinat du bâtonnier du premier barreau du pays a constitué un choc qui a dépassé la seule sphère juridique. À 64 ans, Montferrier Dorval était une personnalité connue et reconnue en Haïti, comme en témoigne Maître Jacques Létang, qui préside la Fédération des barreaux du pays.
Maître Dorval symbolisait vraiment une icône pour la profession d'avocat et aussi pour la communauté universitaire haïtienne en tout cas. Il a passé toute sa vie à servir le pays et dignement. Avec son élection à la tête du barreau de Port-au-Prince, on sentait venir un nouveau souffle. Il a su impulser vraiment du dynamisme et d'une autre manière de voir le barreau en tant qu'institution. Il a réussi à réunir, à rassembler autour de lui tous les avocats et toutes les avocates de la juridiction de Port-au-Prince. C'est un coup dur porté à toute une corporation, à toute une profession.
Face à la justice lente, sinon même inexistante dans le pays, Jacques Létang et ses confrères préfèrent pour l'heure rester optimistes.
Je conviens que le système judiciaire haïtien qu'on a aujourd'hui est complètement défaillant. Il ne répond pas toujours aux attentes de la population qui a vraiment besoin de justice. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'on va se limiter à répéter cette vieille tradition ? L'enquête se poursuit. Nous, on veut rester optimistes malgré la défaillance du système judiciaire. C'est le système qu'on a malheureusement. On lutte jour et nuit au niveau de la corporation professionnelle des avocats pour que cette justice change de visage. On n'en est pas là encore aujourd'hui, mais on espère qu'avec l'assassinat de Maître Montferrier Dorval, cette justice qui dort va enfin se réveiller. Il y a vraiment un devoir de s'indigner.
En attendant que la lumière soit éventuellement faite sur cet assassinat, que ses auteurs et instigateurs soient connus, arrêtés et jugés, c'est aujourd'hui tout un pays qui s'interroge sur sa propre sécurité.
Si le premier des avocats du barreau de Port-au-Prince a été lâchement assassiné par des bandits qui n'ont éprouvé la moindre crainte possible face à ce crime, par une réaction rapide de la police, alors même que l'assassinat de Maître Montferrier Dorval a été perpétré dans un quartier qui est supposé sous haute protection. Parce que c'est là aussi se trouve la résidence du président de la République. Mais si c'est le bâtonnier qui est visé, le bâtonnier qui est tombé, le bâtonnier qui est assassiné, et nous, les citoyens ordinaires, quel sort qui nous est réservé ? C'est la question qu'on se pose tous actuellement.
L'insécurité mine indubitablement la vie quotidienne en Haïti et les avocats déclarent ne plus vouloir tolérer cet état de fait. Ils prévoient une marche demain dans la capitale pour dénoncer l'impunité et également dénoncer les tentatives de récupération politique que certains font de la mort du bâtonnier. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On vous retrouve dans un instant pour la revue de presse des Amériques, mais on va revenir tout d'abord sur la visite du président américain hier à Kenosha dans le Wisconsin, où un jeune homme noir a été blessé de 7 balles dans le dos par un policier il y a 10 jours. Donald Trump, qui n'a pas rencontré la famille de Jacob Blake, le président américain se concentre sur sa campagne électorale qu'il veut axer sur les questions de l'ordre et de la sécurité. À New York, Loubna Anaki.
À Kenosha, Donald Trump est venu avec un message et un seul: il faut soutenir les forces de l'ordre.
l'ordre.
Des politiciens d'extrême gauche irresponsables continuent de propager l'idée que notre nation et nos forces de l'ordre sont répressifs ou racistes, alors qu'on devrait apporter notre soutien à nos forces de l'ordre.
Et en termes de soutien, le président américain a annoncé une enveloppe $1 million pour la police de Kenosha, 42 millions pour la sécurité publique dans l'État du Wisconsin et 4 millions de dollars pour les commerces victimes de vandalisme. Interrogé sur la multiplication des cas de violence policière, Donald Trump a défendu les policiers qui, selon lui, n'ont parfois tout simplement pas le temps de réfléchir à leurs actions.
Certains paniquent, ils subissent une énorme pression, ils peuvent avoir 15 ans d'expérience et avoir une carrière sans aucun incident, et d'un coup ils doivent prendre une décision, ils ont une fraction de seconde, et s'ils prennent la mauvaise décision, soit ils meurent, soit ils ont un gros problème.
Un peu plus tôt sur la chaîne Fox News, Donald Trump allait jusqu'à comparer ses policiers à, je cite, « des golfeurs qui paniquent lors d'un tournoi et ratent un trou à un mètre de distance ». Donald Trump n'a pas rencontré la famille de Jacob Blake à Kenosha, mais a dit compatir avec eux, insistant aussitôt sur le fait que l'enquête était toujours en cours. Loubna Anaki, New York, RFI.
Stéphanie Schuller, on reste aux États-Unis avec le poids de la désinformation dans la campagne présidentielle américaine à la une de la presse.
Avec tout d'abord les désinformations véhiculées par le président sortant lui-même, Anne. Des voyous portant des uniformes sombres se sont entassés dans un avion pour se rendre à Washington et perturber la convention nationale républicaine la semaine dernière. Tout l'avion était rempli de pillards, d'anarchistes, d'émeutiers, de gens qui cherchaient manifestement des ennuis. C'est ce qu'a déclaré Donald Trump lors d'une interview lundi sur Fox News. Rapporte aujourd'hui le Washington Post. Le quotidien fait remarquer que le président n'était pas capable d'apporter la moindre preuve à ses dires. Ce compte fantastique présidentiel, livré par Donald Trump sur une chaîne à grosse audience, démontre en revanche autre chose, écrit le Washington Post. Le président n'hésite plus à promouvoir des théories du complot, une stratégie qui sera au cœur de sa campagne de réélection, Anne.
Pour ce qui est de la désinformation, Stéphanie, selon les services de renseignement américains, Donald Trump reçoit un coup de pouce, je le disais en titre, de la part de gouvernements étrangers.
Oui, après avoir été alerté par le FBI et la NSA, l'Agence nationale de sécurité, Facebook et Twitter disent avoir démantelé hier une campagne de désinformation russe. À en croire ces deux réseaux sociaux, l'opération d'influence russe n'était qu'à ses débuts, écrit le New York Times. Une organisation russe proche du Kremlin, la Internet Research Agency, a créé un site internet qui se faisait passer pour un média indépendant baptisé Peace Data, rapporte le quotidien. Et preuve que les techniques d'influence ont évolué depuis la dernière présidentielle américaine de 2016, ce site a engagé de vrais journalistes américains qui ne savaient pas du tout pour qui ils allaient travailler. Peace Data publiait des articles sur des thématiques aussi vastes que le racisme, les violences policières ou encore le changement climatique, et ce, afin d'attirer un large spectre d'électeurs démocrates et pour, dans un deuxième temps, les manipuler en les incitant à s'abstenir de voter, écrit encore le New York Times. Facebook a annoncé hier avoir retiré 13 comptes et pages liés à Peace Data et à la Internet Research Agency, qui affichait 14 000 abonnés. Quant à Twitter, le réseau a suspendu 5 comptes attribués de manière fiable aux acteurs et tactiques russes.
Direction l'Argentine à présent, Stéphanie, où les tensions entre députés de l'opposition et ceux du parti au pouvoir font rage. La pomme de discorde, c'est le fonctionnement de la chambre basse du Congrès argentin en temps de Covid.
Oui, hier soir, les élus de Frente de Todos, le parti péroniste au pouvoir, et d'autres blocs parlementaires ont approuvé une prolongation de 30 jours des sessions purement virtuelles de la Chambre des députés, rapporte La Nation, qui poursuit. Avec cette prolongation, le Frente de Todos du président Alberto Fernández pourrait aborder à distance la réforme judiciaire, réforme à laquelle s'oppose avec véhémence l'opposition de centre-droite.
Et justement, les élus de la coalition d'opposition sont vent debout.
Oui, puisque le dernier protocole, vous savez, pour les sessions virtuelles de la Chambre des députés a expiré le 4 août déjà, et les élus de la coalition de centre-droite Juntos por el Cambio estiment donc que le vote virtuel d'hier soir n'est pas valide et qu'il faudrait une séance en présentiel. Ces élus avaient d'ailleurs pris place dans l'hémicycle hier, raconte le journal Clarín, avant d'annoncer qu'il allait porter l'affaire devant la justice argentine.
La Colombie, à présent, qui a franchi hier le seuil des 20 000 morts dus à l'épidémie de coronavirus depuis la détection du premier malade le 6 mars dernier.
Avec 625 000 cas de contamination, la Colombie est le troisième pays le plus touché d'Amérique latine, soulignait El País. La Colombie sort tout juste de 6 mois de lourdes restrictions sanitaires qui ont eu de graves conséquences sur son économie. Le journal El Espectador consacre aujourd'hui un grand article au tourisme. Dans des villes comme Cartagène, sur la côte caribéenne, les initiatives ne manquent pas pour relancer ce secteur dont dépendent parfois jusqu'à 30% des emplois, écrit le quotidien. À Cartagène, par exemple, les taxis ont été équipés de protections pour séparer les chauffeurs de leurs clients et ainsi garantir la sécurité sanitaire, apporte le journal. Les touristes pourront se déplacer partout dans la vieille ville à condition de disposer de réservations pour leur hôtel, leur restaurant, le musée qu'ils souhaitent visiter. Seul bémol, conclut El Espectador, les plus de 60 km de plages paradisiaques qui attirent habituellement les touristes ne sont pas encore ouvertes.
Merci beaucoup Stéphanie Schuller pour cette revue de presse des Amériques. L'actualité des Outre-mer, à présent avec le journal La Première, présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
À la une, le trafic aérien inter-île entre la Guadeloupe et la Martinique va bientôt être placé sous haute surveillance.
Oui, les préfets des deux îles des Antilles ont en effet annoncé conjointement hier un renforcement des mesures de contrôle sanitaire, mesures qui s'appliqueront dès ce vendredi, mesures qui suscitent d'ores et déjà une certaine incompréhension, on va dire, au sein de la population. Claude Gracien, La Première Martinique.
Il y a d'abord la diminution d'environ 30% du trafic inter-île. Cette évolution sera contrôlée par la direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane. Et puis, une autre mesure qui fait parler, c'est la prise de température des passagers. La préfecture a publié ces informations sur ses supports, y compris sa page Facebook, et certains internautes se montrent dubitatifs sur les mesures annoncées. Beaucoup jugent la prise de température particulièrement inutile. Tous les contaminés ne font pas de température et tous les fiévreux ne sont pas des covidés, dit par exemple un lecteur. La plupart des cas asymptomatiques passeront à travers, ajoute un autre. Reste que, pour nos territoires, c'est un nouveau coup dur porté à des secteurs comme le tourisme et l'aérien. Les compagnies, déjà dans la tourmente, essayaient de repartir vaille que vaille, mais leur chemin de croix devrait durer plusieurs années encore, selon les spécialistes.
On reste en Martinique, où la plupart des élèves ont fait leur rentrée scolaire hier, mardi, rentrée évidemment un peu et même beaucoup particulière, avec l'application du protocole sanitaire, épidémie de Covid-19 oblige. Elvire Hannibal-Cyril est inspectrice d'académie. Elle était présente à l'école primaire de Rivière-Salée. Écoutez-la au micro de Christelle Sivat.
Le marquage a été fait au sol. On a eu des pauses plutôt que des récréations pour qu'effectivement les élèves puissent se laver les mains et puis aussi un peu reconnaître leur espace, parce que ça fait quand même un certain temps qu'ils ne sont pas venus dans cette école. Nous avons aussi échelonné la rentrée, ça a été possible aussi. Nous avons eu aussi la visite des infirmières pour rappeler les gestes. Autre élément aussi, nous avons pensé que 2 enseignants par groupe d'élèves, ce serait très intéressant pour cette première rentrée. Cela rassure à la fois les parents et cela rassure aussi les enfants. Dans le protocole, il était stipulé que les parents pourraient rentrer dans l'école. Donc les parents ont été accueillis. On accueille les enfants avec masque, les enfants sans masque. Il n'y a pas une obligation particulière de porter. Par contre, pour les adultes, oui. Autre chose aussi qui a été mise en place, c'est la salle d'isolement. Parce que si effectivement il y a un cas suspect, effectivement l'enfant est pris en charge ou le personnel est pris en charge directement.
Et bonne rentrée tout de même. Et bon après-midi Anne, à demain.
À demain, merci à vous Benoît Ferrand pour ce journal Outre-mer Première. Et direction le Chili à présent, où la pandémie de coronavirus a fait plus de 14 000 morts. Conséquence, le tourisme est à l'arrêt. Il représente environ 4% de l'activité économique au niveau national et jusqu'à 80% de celle de l'île de Pâques, où un flot ininterrompu de touristes venait chaque année admirer les gigantesques et mystérieuses statues à visage humain au bord du Pacifique. Là-bas, les habitants ont été forcés de se réinventer pour joindre les deux bouts. Explication de Justine Fontaine, notre correspondante à Santiago.
Il y a 3 ans environ, Tamara Pavez est venue travailler sur l'île de Pâques, appelée Rapa Nui dans la langue locale. D'abord femme de chambre, cette jeune Chilienne s'est rapidement mise à travailler comme masseuse, notamment pour un hôtel haut de gamme. Mais l'arrivée de l'épidémie de coronavirus au Chili en mars a changé son quotidien du jour au lendemain.
L'île a fermé, les vols se sont arrêtés et tout d'un coup, tous ceux qui travaillaient dans le tourisme ont perdu leur travail.
Elle se retrouve alors au chômage, angoissée aussi d'attraper le coronavirus alors que les services de santé sont très limités sur l'île, une île située à plus de 3500 km des côtes chiliennes. Heureusement, il n'y aura que 5 cas finalement et aucun décès là-bas. Pour s'en sortir financièrement, Tamara se met à faire du troc avec une professeure de piano.
Une fois par semaine, un cours de piano en échange d'une séance de massage. Et puis comme il y a pas mal d'agriculture sur l'île, j'ai aussi échangé des massages contre des caisses de légumes, des pommes de terre, des patates douces, de la laitue. Tout est très cher ici. Alors c'est vraiment une super expérience de pouvoir offrir ce service et de recevoir des aliments en échange. Et c'est ce qu'on vit en ce moment sur l'île. Beaucoup de troc, d'échanges de biens et de services.
Maria José Rodriguez, 40 ans, a elle aussi perdu son travail dans une agence de tourisme fin mars. Elle a reçu quelques indemnités chômage, mais elle a dû réduire ses dépenses au strict minimum.
Cela a été très difficile parce qu'on s'est retrouvés sans ressources du jour au lendemain. Hormis la production locale, il n'y avait plus rien au bout de 2 semaines car les bateaux d'approvisionnement ne venaient plus. Mais la solidarité s'est vite organisée sur l'île. Et puis, chez moi, nous avons commencé à cultiver. Maintenant, nous avons des tomates, des bananes et nous les échangeons contre d'autres produits.
Aujourd'hui, les vols commerciaux n'ont toujours pas repris, mais les autorités et les commerçants affrètent régulièrement un avion pour approvisionner l'île, où résident un peu plus de 8000 habitants, entre les étrangers, les Chiliens du continent et les membres du peuple polynésien Rapa Nui. La municipalité, elle, tente de venir en aide aux riverains tombés dans la précarité. Pedro Edmunds Paua est le maire d'Angaroa, la seule commune de l'île de Pâques.
1800 personnes se sont retrouvées sans travail. La municipalité a tenté de réactiver avec les habitants des concepts ancestraux de solidarité, de collaboration, de soutien mutuel. Et avec le conseil municipal, nous avons transféré tout l'argent qui était destiné à des investissements vers des mesures pour l'emploi. Mais les moyens de la commune sont limités.
Il assure qu'il n'aura pas de quoi payer les dépenses du dernier trimestre de cette année et fait donc appel à l'État chilien pour qu'il débloque des aides pour l'île. Mais il souligne aussi que les restrictions sanitaires ont eu des conséquences positives inattendues au quotidien. Les habitants profitent par exemple d'avoir l'île et ses paysages juste pour eux, sans touristes. L'île de Pâques et ses immenses statues grises ont attiré l'an dernier près de 120 000 visiteurs, chiliens ou étrangers. Justine Fontaine, Santiago, RFI.
Voilà le reportage de Justine Fontaine. Merci d'écouter RFI, c'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. On se retrouve demain 15h10, heure de Paris, 13h10, heure de Port-au-Prince, heure de 13h10, temps universel, voilà, je vais y arriver. 9h10, heure de Port-au-Prince, on y arrive. Et puis restez avec nous sur la Radio du Monde dans un instant. De vive voix, votre émission sur la francophonie avec Pascal Paradou. À demain.
RFI. Toute l'actualité à retrouver sur rfi.fr ou si votre connexion est lente sur m.rfi.fr.
RFI, la sélection du mois.
Lako Music et Leila Makkala.
Mais moi, soleil l'a levé. En bas de clam choc où tu fais oui.
On part de l'altitude, toi et moi. Loin de nous.
Angèle.
Pas notre aptitude, celle qu'on avait à rester fier. Ni l'un ni l'autre ne l'a.
Takou, un Masego. Véro Herman Samba.
Devant moi, on zing zing vin pose. Allah yassa, longtemps moins j'aille gauche.
RFI.